Bonjour Guillaume.
Bonjour Pierre.
Aujourd'hui, nous allons parler de la joie. Et la joie est pour l'homme une chose essentielle, un peu comme l'air, comme l'eau. Hein, c'est le bien-être, la satisfaction, le bonheur. Chacun veut la joie pour lui, pour les autres. Ça peut être même un objectif de vie, hein, une quête de tout instant pour trouver la joie. Mais il y a une chose quand même, on sait ce que c'est, la joie. Dans le sens qu'on l'éprouve, on la ressent, mais il est très difficile de la définir. Alors je pense, Guillaume, que vous avez une très belle définition de la joie. Et je vous écoute, et nous vous écoutons, pardon, tous avec beaucoup d'attention.
Je ne sais pas si elle est très belle, mais en tout cas, c'est la mienne. À mon sens, la joie, c'est le sentiment que j'éprouve au regard des circonstances qui me paraissent profitables.
Donc quelque chose qui se produit et vous voyez le bénéfice que vous pouvez en tirer et ça vous rend donc ça vous donne de la joie. C'est ce que vous voulez dire.
Oui, et je vais même le préciser, c'est que quand je vous rencontre, je ressens de l'amour pour la relation, je ressens de la satisfaction pour ce que nous faisons, mais je ressens de la joie pour la circonstance.
Oui.
Voyez? Donc en fait, je vais me réjouir de vous rencontrer, mais quand je vous rencontre, je peux aussi ressentir d'autres choses liées à d'autres, aux personnes, c'est l'amour, ou aux actions. C'est la satisfaction. Je me satisfais, par exemple, de faire un enregistrement. Je suis très, très, très. Je suis comblé du travail que je fais parce que c'est un travail que j'apprécie et il me satisfait, il m'apporte quelque chose. Mais la joie, je crois que ça vient de la circonstance, ça vient un peu de tout. Tout à coup, par exemple, il fait beau. Je vais pas dire je suis satisfait qu'il fasse beau parce que dans le
Vous en
fait qu'il fait
profitez
beau.
tout simplement.
Voilà, dans le fait qu'il fait beau, j'ai pas de responsabilité.
Oui, bien sûr. Donc, cette joie est-elle partagée entre les hommes équitablement? Moi, je n'ai pas l'impression, parce que parfois, et même à titre, disons, individuel, un matin, on peut se lever dans la joie et un autre matin, être triste. Et je pense que, à part ceux qui excluent systématiquement pour une raison quelconque, mais ça ne concerne pas la joie. Alors, pourquoi une différence de traitement vis-à-vis de la joie? Pourquoi c'est partagé comme ça? C'est vrai, quand on se lève le matin, on n'a pas à faire beaucoup d'expérience et on peut être plein de joie, ou au contraire, vraiment avoir beaucoup de peine.
Je pense déjà que la joie, elle se trouve. Il faut apprendre à la trouver. Par exemple, quand je viens de chez moi pour aller vers mon bureau, je vois les arbres, je vois le ciel, les nuages, le soleil, je vois des gens qui passent, je vois des choses qui peuvent être plus ou moins intéressantes. Et selon comment je regarde ces choses-là, je me réjouis ou je ne me réjouis pas. Et suivant le prix que j'accorde à ces circonstances, à ces fameuses circonstances, je me réjouis ou je ne me réjouis pas. Je crois que la France, c'est quand même archi connu que la France est un pays de râleurs, où on n'est jamais content de ce qu'on a, où on n'est jamais content alors qu'on a un pays qui est un pays dans lequel la sécurité sociale, le système médical, le système éducatif, la géographie, la mer, la montagne, l'eau,
Le climat.
le climat, le vin, le fromage, etc. On a un pays qui est riche de quantité de choses et on râle.
Oui.
Et je crois qu'on ne sait pas trouver la joie.
Voilà. Et alors, en fait, vous voulez dire qu'on a sa propre responsabilité et qu'on ne sait pas donner du prix aux choses.
C'est ça.
Donc, dès qu'on met le pied par terre, du pied gauche ou du pied droit, il faut donner du prix
À ces circonstances.
à la journée qui va démarrer ou une circonstance qui va se produire dans la salle de bain ou à la cuisine pour le petit déjeuner, c'est ça.
Absolument.
Voilà, donc c'est à chacun de faire attention à cet élément. Alors en fait, quand même, disons du point de vue spirituel, il y a des éléments qui seraient porteurs de la joie. Et en fait, c'est la justice et la paix, hein, entre autres. Il y en a d'autres, évidemment. Alors ça mérite quand même une explication et là, on vous écoute aussi attentivement.
Il y a un verset de la Bible, effectivement, Romains 14, 17, qui dit que le royaume de Dieu n'est pas manger et boire, mais justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. Prenons quelques exemples tout simples. si en France, la justice de Dieu était vécue de manière absolue, alors on pourrait dire que tous les moments, toutes les circonstances du pays seraient des circonstances réjouissantes. On pourrait être dans la rue et vraiment dire bonjour à l'autre, alors qu'on ne le connaît pas, en étant certain que parce que la justice de Dieu est vraiment présente, alors on n'a aucun risque, les choses sont justes entre nous, on roule en voiture, voilà, les choses sont justes, on se laisse passer, tout est réjouissant en fait. Et les choses paisibles, la paix c'est ce qui résulte de la justice entre les gens. Et alors quand les choses sont paisibles entre les gens, voilà encore des circonstances qui sont vraiment appréciables et qu'on recherche, qui produisent la joie, dans lesquelles on peut vraiment trouver la joie.
Oui, alors, excusez-moi, j'en reviens quand même, c'est quand même pas, justement, quand on rencontre les gens, on voit rarement des gens joyeux qui vous disent bonjour, qui vous saluent, qui chifflotent, c'est quand même drôle.
Oui, et je crois que c'est essentiellement parce que dans notre pays, on n'apprend pas à se réjouir.
Mais c'est pas propre à notre pays, quand même.
Mais peut-être que dans d'autres pays... c'est pareil, mais en Italie, par exemple, je trouve que les gens sont plus joyeux qu'en France. C'est une expérience récente, puisque j'ai des situations personnelles qui ont fait que je suis allé en Italie. Et en France, il y a quand même une espèce de comportement étriqué qui fait que finalement, on ne se réjouit pas de tout ce qu'on pourrait avoir, alors qu'on a... quantité de belles choses. Aujourd'hui, on habite Marseille, on va à Paris en 3 heures, c'est quand même 3 heures, c'est quand même réjouissant de pouvoir faire ce genre de choses. On a un problème, quand on est une femme à 75 ans, on a un problème de varice, on se fait opérer, ben on va à Marseille, on va même à Aix, on va ici ou là, on se fait opérer, et les choses se font bien, c'est en chirurgie ambulatoire, c'est réjouissant.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on ne se réjouit pas? C'est parce qu'on n'a pas appris, c'est parce qu'on est dans la revendication, c'est parce qu'on est dans la dépréciation de ces circonstances qui pourtant devraient nous montrer qu'on est dans un beau pays. Cette semaine, la France a perdu son triple A, mais franchement, mais qu'est-ce que ça peut nous foutre de perdre notre triple A? C'est-à-dire que on est mesquin, on est petit, on ferait mieux de travailler, de dire, ben oui, par rapport aux autres économies, on est moins bon, mais ça fait rien, allons-y, continuons, tirons profit de nos ressources, de nos potentialités, de nos hautes études, etc., et considérons que toutes ces choses-là sont bonnes.
Donc ça s'éduque, la joie, enfin, il faut faire une démarche, se travailler à la trouver, on ne peut la trouver que si on la cherche.
C'est ça.
Hein? Oui. Alors, est-ce que socialement et au point de vue spirituel, la joie que vous éprouvez, vous avez l'air d'être un personnage en général, je dis bien en général, joyeux, hein? Est-ce que ce n'est pas un témoignage vis-à-vis de votre communauté, surtout familiale, de l'environnement, de vos voisins, de votre église, de vos amis, ainsi de suite?
Oui, oui, oui. Tout à l'heure, j'ai parlé aussi de l'amour et de la satisfaction. Je pense que ces éléments qui sont lumineux, qui font du bien parce que les gens les voient, devraient être des éléments normaux dans l'humain, homme ou femme, que tout le monde puisse ressentir de l'amour parce qu'on s'approche des autres, que tout le monde puisse être satisfait. Ah, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Eh bien, j'ai fait ça. Vraiment, j'ai été satisfait parce que ça m'intéresse, parce que j'ai creusé la chose, etc. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oui, ben c'est vrai, là, on a à faire des progrès, mais on va y arriver. Et je suis joyeux, je sais me réjouir, même dans une circonstance difficile, parce que non seulement au niveau humain, je peux les faire avancer, mais au niveau spirituel, je sais que tout est dans la main du Seigneur. Et donc, tout est occasion de se réjouir, finalement, même les choses qui apparemment n'avanceraient pas.
Oui, et donc aussi, on doit la faire, la partager, la joie.
On doit la partager. Alors moi, il me semble que la partager, c'est peut-être deux choses. Tout d'abord, c'est que ce que je ressens intérieurement, même si je ne le veux pas, ça se partage. Parce
oui,
que c'est moi,
oui, bien sûr,
en
parce
fait.
Que... hein, ça voilà, se voit c'est en moi. Ça entraîne.
Voilà. Et puis après, il y a quand même une volonté de de dresser mon cap vers le fait de trouver la joie. C'est-à-dire que on pourrait vite se laisser aller en disant « Oh là là, mais ce matin, il faisait moins 2 à Aix, et il fait froid, et j'aime pas bien le froid, et j'ai du mal à me réjouir dans ces conditions. » Ben oui, en fait, tu peux quand même faire un effort et considérer que, globalement, est-ce qu'il y a un endroit en France où il fait plus beau qu'à Aix ou à Briançon, par exemple, avec plus de 300 jours de soleil par an, et que on a, ben, si quelquefois il fait trop froid, eh ben, tu mets ton écharpe, et puis voilà. Et puis, ça fait partie des choses qu'on peut relativiser quelque peu.
C'est quand même secondaire, hein, ce problème de froid, par exemple, ou de climat. Il faudrait quand même le dépasser, hein.
Et on peut le dépasser en regardant simplement ce qu'on a autour de nous, en regardant les gens, en regardant tout ce qui peut être intéressant, toutes ces rencontres, toutes ces possibilités de faire beaucoup de choses bonnes et agréables.
Alors, il y a quand même une démarche, hein, pour rassurer un peu nos auditeurs, pour acquérir la joie, la conserver, la partager, et c'est Paul qui va nous donner cette règle de vie. Et je vais donc citer effectivement donc, quelques éléments. Et c'est donc, je crois, dans l'Épître aux Philippiens.
Philippiens,
qui l'exploite, ou effectivement, donc, ce sentiment de joie. Alors, il commence à dire, donc, il faut faire la volonté de Dieu. Ben, d'accord, bien sûr. Mais si c'est dans la souffrance, n'est-ce pas difficile? Et il ne faut pas oublier que l'homme est pauvre et fragile. Donc, faire la volonté de Dieu, source de joie, je veux bien, mais dans la réalité, ça peut ne pas être évident.
Alors, si on prend la pensée populaire, hein, la pensée de tout le monde, sans que ça soit péjoratif, c'est effectivement comme vous venez de le dire. L'homme est faible et fragile, l'homme ne sait pas discerner la volonté de Dieu, donc l'homme, finalement, ne trouve pas bien un sens à ce qu'il fait, ni la capacité de pouvoir le faire. Si on prend plutôt la pensée biblique et les réalités que l'apôtre Paul donne de manière relativement simple, qu'est-ce qu'on va voir? Que la question de la volonté de Dieu, pour Paul, elle est d'une simplicité mais enfantine. Hein, il va dire aux Colossiens, par exemple, Colossiens 1:9, « Nous ne cessons de prier pour que vous discerniez la volonté de Dieu ». Il va dire au même Colossiens, au chapitre 4, verset 12, que Épaphras combat par des prières afin que vous demeuriez bien assurés dans toute la volonté de Dieu. Mais il ne dit pas comment l'obtenir. Parce que pour Paul, connaître la volonté de Dieu, c'est quelque chose
d'évident.
Voilà. Oui. Si je prends un exemple que je prends assez souvent, peut-être même dans ces enregistrements, on a ici trois fenêtres d'un mètre carré plein sud. Et donc, quand le soleil est un peu haut dans le ciel comme maintenant, alors ça éclaire la pièce et on y voit. Mais je crois que les fenêtres, c'est un peu le symbole de la foi, le symbole de l'ouverture à Dieu. Et quand j'ouvre mes fenêtres intérieures, alors la lumière de Dieu rentre et je sais. C'est ça le travail de conscience. Et donc, je suis appelé à faire ce travail de conscience, à prendre le temps d'être à l'écoute de la voix de Dieu dans ce qu'il a à me dire, concernant tout ce que je suis, tout ce que je fais, toutes les personnes avec qui je suis, tous les lieux dans lesquels j'évolue. Et ce faisant, forcément, je vais discerner sa volonté. Si je discerne sa volonté, si ces choses sont précises pour moi, alors je n'aurai pas d'obstacle pour que vraiment je puisse me réjouir dans les choses que je vais faire. Et de ce fait, ça va être relativement simple de me réjouir, même si, comme vous le disiez, les choses peuvent être difficile parce que je peux avoir un décès dans ma famille, je peux avoir une maladie, le chômage, une circonstance particulière. Mais si dans ces circonstances difficiles, je sais ce que je dois faire, alors c'est certain que je peux être triste des circonstances difficiles, mais vraiment me réjouir dans des circonstances qui sont un peu le terreau de la réussite de ce que je dois faire. Thank you.
Alors pour Paul, il y a aussi encore une autre règle, enfin, il y en a plusieurs, on va les toutes les aborder, c'est il dit que, ma foi, la lecture de la parole, des textes, vont ouvrir des perspectives et qu'il faut aussi prier. Alors prier, je veux bien, je suis quelqu'un qui croit à la prière, mais souvent c'est un peu pis-aller, on dit « oh, il faut prier ». Et ça devient un peu gênant chez les chrétiens de dire « Oh, ben, ça va pas, mais prier, ça va bien, prier ». C'est un peu crispant pour celui qui a justement des ennuis. Mais peut-être lire la parole et la lire avec son cœur, pas uniquement avec ses yeux, hein, parce que je me méfie de ces lectures aussi superficielles, ça peut amener la joie.
Oui. Tout à l'heure, on parlait du travail de conscience. Et le travail de conscience concerne la volonté de Dieu, concerne l'ensemble des choses qu'on connaît et dont on apprécie la valeur quant au bien, quant au mal. Là, la prière, elle ouvre à la présence de Dieu. Elle ouvre à la personne de Dieu, elle ouvre à sa consolation, elle ouvre au renouvellement de nos forces, à la précision des perspectives, à... un autre regard qu'on peut avoir sur les gens, sur nous-mêmes, sur quantité de choses. Et de ce fait, je crois que la prière nous apporte cette capacité intrinsèque de se réjouir. Quand on prie, forcément, parce qu'on on s'est approché du Seigneur, forcément, on est un homme ou une femme différent. Et on ressent des choses différentes, on a une approche différente, et de ce fait, on peut se réjouir plus facilement.
En fait, prier, vous voulez dire, va créer une relation d'intimité avec Dieu, et ça va être serein, paisible, donc une source de joie.
Voilà.
Hein? Et alors, disons, la parole elle-même va être porteuse de joie. Pourtant, parfois, il y a des chapitres abominables, quand même, dans la Bible, il faut l'avouer. Hein?
Oui, parce que... Dans l'absolu, la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc si c'est la parole de Dieu, alors quand elle nous parle, forcément, elle nous fait du bien. Même quand on lit des choses affreuses. Peut-être que ça nous fait du bien parce qu'on sait que Dieu constate ces choses affreuses, mais qu'il en fera quelque chose. Peut-être parce qu'on sait que Dieu constate ces choses affreuses, mais qu'il va rendre justice. Peut-être parce qu'on constate... que dans ces choses affreuses, Dieu est intervenu comme ceci ou comme cela. Et je crois que c'est ça la richesse de la lecture
biblique, le plan de Dieu.
De rencontrer, oui, comment Dieu agit, à l'égard de qui, de quelle manière, ça nous ouvre, ça donne une forme à notre pensée, et ça nous permet d'être plus disponibles pour nous réjouir, oui.
Oui, alors aussi, il ne faut pas oublier l'esprit, il faut s'ouvrir à l'esprit, qui est en fait le dispensateur de la joie.
L'esprit, c'est voilà celui qui nous conduit dans un vrai regard sur les choses. Alors, par exemple, quand on veut vraiment être à l'écoute de l'esprit, comment peut-on dire je ne vaux rien? Si je suis amené par l'esprit à dire je vaux quelque chose, je ne sais pas forcément ce que je vaux, mais je vaux quelque chose, à ce compte-là, je peux vraiment me réjouir d'être quelque part, parce que valant quelque chose, ma présence sert à quelque chose. Et donc, cette conviction de valoir quelque chose est intrinsèquement en moi-même, parce que je l'entends, ou elle se forme par l'esprit en moi, et de ce fait, elle m'amène à me transformer et à aller vers quelqu'un de plus joyeux que si je suis continuellement en train de me morfondre, ou de critiquer, ou de fuir, par exemple.
En fait, le baptisé est de lourdes responsabilités, parce que le baptisé, justement, a reçu l'esprit, et si l'esprit dispense la joie et qu'il la refuse ou qu'il ne sait pas en vivre, c'est quand même gênant.
Et c'est en premier lieu gênant pour lui,
Oui.
parce qu'il ne l'a pas.
Oui, bien sûr.
il a c'est vrai qu'il a la responsabilité de construire sa vie de manière complète, de manière intelligente, de manière ouverte. Voilà, c'est dommage s'il ne le fait pas tout à fait, oui.
Alors, il y a aussi, évidemment, donc, témoigner sa foi et proclamer la bonne nouvelle. Donc là, c'est facile à comprendre. On ne peut être que joyeux. On sait qu'on est dans la main de Dieu. On sait qu'on vaut quelque chose aux yeux de Dieu. On sait qu'on a le salut qui nous est offert par grâce. On ne peut être que joyeux. Et expliquer ça aux autres, hein, puisqu'il faut, disons, proclamer sa foi et la bonne nouvelle, ça ne peut que rendre joyeux.
Oui, on va pour dans cette perspective-là écouter un texte biblique particulier dans cette lettre aux Philippiens. C'est une expression que Paul va utiliser au chapitre 2, vers la fin du chapitre, quand il dit de recevoir quelqu'un avec toutes sortes de joie, comme si c'était pas si évident que ça. Je crois que la joie, c'est quand même le fruit d'une démarche appliquée, d'une démarche rigoureuse, d'une démarche responsable, comme vous disiez. La joie, c'est la joie, elle doit être liée à la créativité, elle doit être liée à l'intérêt que je vais porter à toutes sortes de choses, et de pouvoir finalement transformer toutes ces choses en les amener à devenir quelque chose d'intéressant, plutôt que quelque chose d'inintéressant, de morne, et desquels on ne parle pas. Donc on est appelé à bouger intérieurement, à vraiment s'intéresser. Recevez-le avec toutes sortes de joies. On peut se mettre en situation toute simple. Si j'ai des invités à midi, qu'est-ce que je vais faire en fait? Alors, moi, je pense, par exemple, on a un séjour qui est orienté vers le midi et j'aime bien la lumière. Et donc, les gens qui craignent la lumière de face, moi j'en raffole de la lumière, et je les mets plutôt de dos. Et pour qu'ils ne soient pas éblouis ou gênés, voilà. Mais j'aime bien la lumière qui pénètre dans la pièce et j'aime bien tout ce que la lumière peut produire par rapport aux couleurs. Alors j'aime bien les couleurs chaleureuses, le rouge, l'orange, le marron, etc. Et voir comment est-ce que je peux arranger tout ça. Et donc là, il y a déjà toutes sortes de joies pour recevoir quelqu'un. Après, dans les toutes sortes de joies, il y a bien sûr la nourriture, la boisson, mais la manière d'être assis, la manière dont le repas se fait. Il y a le fait de faire découvrir quelque chose. À midi, par exemple, on a eu quelqu'un. Malheureusement, je lui ai mis de l'anis dans son café et il s'est trouvé qu'il n'aimait pas l'anis. Alors, voilà, mais c'est ça les toutes sortes de joies. C'est essayer
De contrarier votre invité.
pas toujours de surprendre, mais d'être dans quelque chose de vivant qui fait que finalement, même si ça ne nous convient pas tout à fait, on est quand même dans une découverte et dans quelque chose qui a une dynamique, qui a du relief, qui a de la saveur. Et voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est à notre responsabilité.
Alors, nous sommes toujours dans le chapitre Trouver la joie. Nous avons donc énuméré quelques possibilités, une démarche que nous propose Paul, et on peut reprendre donc encore d'autres points. Et pour donner une suite à ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a évidemment aussi, je pense qu'il faut utiliser à bon escient, par exemple, les talents qui ont été donnés par Dieu. Il faut les faire fructifier. Et je crois que là aussi, ça ne peut être qu'une source de bonheur, de joie. Se dit, voilà, je fais ça à d'autant plus de plaisir que je sais que je suis capable de le faire et que c'est Dieu qui me l'a donné.
Oui, peut-être il y a un gros obstacle à cette dynamique qui est très constructive et positive, c'est de penser que la joie vient de nulle part.
C'est ce qu'on a souvent l'impression, hein.
Voilà.
Ça paraît un peu mystérieux.
Que nos émotions sont une partie de nous-mêmes, que c'est tellement une partie de nous-mêmes que c'est nous-mêmes, mais que finalement, ça vient quand ça vient. Eh bien, écoutez, moi, de toute façon, dans ma famille, on n'est pas joyeux, on n'exprime pas, et puis on est plutôt triste. Voilà. À mon sens, de la même manière que notre cerveau est composé de deux lobes, et que les scientifiques ou les médecins proposent, de manière assez générale, que le lobe gauche qui commande la main droite est plutôt cartésien et rationnel, et le lobe droit qui commande la main gauche est plutôt créatif et, on pourrait dire, émotionnel. Alors, on a une pensée, mais cette pensée, elle est une sorte d'amalgame ou de cohabitation de rationnel et d'émotionnel. Et à mon sens, c'est le rationnel qui induit l'émotionnel. L'émotionnel vient du rationnel. C'est-à-dire que suivant comment je regarde les choses, alors je me réjouis ou je m'attriste. Si, par exemple, j'ai décidé de craindre ou de fuir les difficultés, alors chaque fois que j'aurai une difficulté, je vais être triste. Quand j'aurai un examen, quand je dois rencontrer le médecin, quand je dois payer mes impôts, quand je dois demander une augmentation, etc. Chaque fois que j'ai quelque chose qui est un peu difficile, je m'attriste. Et de ce fait, les gens vont vous dire, écoutez, moi je n'ai pas le naturel de monsieur un tel ou de madame un tel ou mademoiselle un tel. Non, 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 non. Moi, de toute façon, je suis quelqu'un de triste. Oui, mais là, il y a déjà un mensonge au départ. Il y a déjà quelque chose qui fait qu'on n'est pas dans cette dynamique, justement, d'envisager des choses bonnes, d'utiliser toutes ces capacités dont vous avez parlé, que Dieu nous donne, pour être dans une bonne dynamique, quelque chose qui nous fait du bien à nous et aux autres.
Une question un peu à côté. Est-ce que vous rencontrez, et je sais que vous rencontrez beaucoup de personnes, des gens qui sont systématiquement tristes, comme vous avez l'air de le décrire?
Oui.
Oui.
Ah oui, j'en rencontre des gens qui pleurent, des gens
Oui, mais
qui souffrent, des gens qui. Oui.
c'est à un moment donné, une crise.
Oui, alors après, tout dépend mais les gens qui sont, dans un suivi médical, qui sont soignés.
Oui, mais à une circonstance, là, quand même, qui justifie. Ils ne sont pas naturellement tristes à 100% tous les jours.
et ils le sont devenus.
Ils le sont devenus.
Ils le sont devenus. Par exemple, je pense à une maman qui m'a dit, moi, ma mère était dépressive, moi je suis dépressive, et ma fille commence à être dépressive. Mmh. Et donc, pour ces gens-là, il n'y a pas de solution, parce qu'en fait, elles sont dans un projet de vie dans lequel la dépression est terriblement présente, et à partir duquel elles ne peuvent pas faire grand-chose, d'autre que d'attendre que le Seigneur intervienne, mais elles ne vont pas se réjouir de voir un joli tableau, de voir un bébé qui vient, d'entendre, elle ne va pas chercher, cette personne ne va pas chercher à mettre des fleurs dans son appartement, dans sa maison, à s'habiller de manière avec des couleurs qui plaisent. Hein, moi, quand je regarde mon t-shirt, je suis très content. J'aime les couleurs. Et c'est vrai que ce que je choisis, je le porte. Et quand je le choisis que je ne l'aime pas, je ne le porte pas. Et du coup, c'est ça, en fait, cultiver la joie en nous. Et la personne qui décide quelque part d'être dépressive, alors elle coupe vraiment la plupart des opportunités de se réjouir. Et ça collabore, ça construit un personnage qui est régulièrement triste, en oui. fait.
En fait, on pourrait dire que ce sont des aveugles de naissance.
Un peu, oui.
Ils ne oui. voient pas ce qui leur permettrait de se réjouir, qui est beau et qui a Dieu derrière.
Voilà, de à la fois des aveugles au niveau rationnel mmh. par rapport à ce qu'ils regardent,
oui, oui.
et à la fois des aveugles au niveau émotionnel par rapport à ce qu'ils ressentent.
Bien sûr.
Et en fait, c'est des gens qu'on n'a pas tellement envie d'avoir à table. Parce que quand on est à table avec un groupe de personnes, on aime bien les gens qui sont pimpants, qui trouvent de l'intérêt à tout. Ah, vous avez une table en verre. Ah, il y a des rayures. Vous savez, moi, j'ai trouvé quelque chose pour faire que... Voilà, des gens vivants et qui savent donner un relief aux choses que nous sommes en train de vivre. C'est un peu ça, la joie aussi.
Oui, bien sûr. Alors, un autre élément, se tenir loin du péché et se relever en cas de chute. Il faut effectivement donc du courage d'une part et puis aussi avoir la conscience peut-être d'autre part qu'il ne faut pas pécher, puis si on a péché, il faut se relever. Pas oublier qu'on est justifié quand même.
Oui, quand on connaît la véritable joie, c'est-à-dire l'état d'âme qui correspond à un regard juste sur les circonstances, à un regard selon Dieu sur les circonstances. Quand on connaît cette véritable joie, alors je crois que c'est absolument clair que chaque fois qu'on est à côté de ça, on sent que la joie retombe. Et chaque fois qu'on pêche, alors on sent que la joie est vraiment au fond et qu'il faut un peu de temps pour qu'on revienne près du Seigneur et pour qu'on puisse retrouver ce regard affûté, cette capacité de voir en fait selon Dieu, comme Dieu. Et c'est ça l'expression... N'attristez pas, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Il y a une réalité en nous qui est très importante et qu'il nous faut considérer avec précaution.
Et il y a une idée aussi, c'est de persévérer dans cette
oui.
recherche.
Alors je vais parler du retour. Hein. Tout à l'heure, vous avez parlé du péché et oui. du retour. C'est-à-dire que quand on pêche, alors je crois que de la même manière que la lumière éclaire toute chose, alors, la lumière du Seigneur éclaire notre être intérieur et on peut bien se rendre compte de là où on a péché, de comment on a péché. Et plus on s'en rend compte, et plus c'est facile de revenir, hein, de confesser, c'est-à-dire de considérer effectivement que Dieu a raison. Et en y revenant, alors j'apprécie non seulement le fait de revenir, mais j'apprécie le retour lui-même. J'apprécie non seulement le fait de me retrouver près du Seigneur, mais j'apprécie ce retour, le fait de savoir se relever, le fait de comprendre que ce n'est pas un problème de péché. Le problème, c'est de ne pas savoir se relever. C'est ça qui est scandaleux. Hein? Je pense à un des derniers versets du psaume 20, où David dit dans une exclamation triomphante, « Eux, ils tirent gloire de leurs chevaux, mais nous, du nom du Seigneur, de l'Éternel. » Et il dit, « Eux, ils tombent, mais nous relevons. » Et nous tenons debout. Oui. Savoir se relever, c'est quelque chose de fantastique. Un des piliers du travail pastoral, c'est d'apprendre justement aux gens à se relever et de comprendre que la chute fait partie du progrès. Quelqu'un qui ne chute jamais, c'est quelqu'un qui ne progresse pas.
Mais on se demande à la limite, même s'il peut être joyeux.
Eh oui, exactement.
Parce qu'il ne connaît pas l'ouverture de Dieu et ce qu'il peut offrir, quoi.
Absolument.
Voilà. Donc, il faut bien sûr s'ouvrir aux autres. Il y a un problème, un rapport aussi quand même aux autres.
Oui.
On ne peut pas être joyeux dans la joie seul. Et le fait d'aller en contact auprès des autres, du prochain, je pense, c'est un élément qui peut apporter la joie. Peut-être pas toujours, parce qu'on peut rencontrer parfois des gens très désagréables, mais bon, il faut aussi les accueillir quand même. Et puis, il y a quand même d'autres gens qui sont quand même... qui vous apportent la joie.
Tout à l'heure, je vous ai proposé cette définition de la joie qui vaut ce qu'elle vaut, hein, qui est, en quelque sorte, avoir une estimation juste ou selon Dieu des circonstances. Si cette définition est bonne, alors on peut dire que quand on n'est pas tourné vers les autres, comme dit Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 13, 2 et 3, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien, cela ne me profite de rien. Donc il n'y a pas de profit dans la chose que je fais. Et la circonstance est creuse, elle est morne, elle est triste, elle n'a pas tellement d'intérêt, parce qu'en fait elle ne tient pas compte des gens. Je prends quelques exemples. Vous avez des érudits qui sont capables de vous parler toute la journée durant de ce que c'est qu'une fleur, de ce que c'est qu'un champagne, ou de ce que c'est qu'une chaise bien fabriquée. Mais ils en parleront, mais de vous, ils se fichent pas mal, comme de leur dernière chaussette. Et donc ces gens-là, ils sont en général toujours insatisfaits, ils veulent toujours en savoir plus, parce qu'ils ne sont pas comblés de l'amour qu'ils portent à la personne. C'est des gens qui ont un peu, j'essaie d'être modéré ou nuancé, mais qui ont un peu l'idole de ce qu'ils font et qui ne se rendent pas compte que c'est l'amour qui les comble, c'est pas ce qu'ils font. Et ce genre de problème, on le retrouve chez les artistes, hein, des gens qui jouent merveilleusement du violon, de la guitare, ou qui chantent très bien, ou qui peignent magnifiquement. On peut le retrouver aussi chez les mamans qui se font tellement du souci pour leurs enfants qu'elles en viennent à avoir une relation avec leurs enfants qui est complètement dévoyée.
Oui, oui.
Où l'enfant étouffe, en fait. Et elles ne sont plus en relation avec leurs enfants, elles sont en relation avec leurs soucis.
Bien sûr.
Et donc, si on n'est pas bien avec l'autre, normalement avec l'autre, c'est sûr qu'on a énormément de mal à ressentir cette joie. C'est l'autre qui nous aide à ressentir la joie, finalement. Parce qu'avec l'autre, notre vie n'est pas creuse, hein, elle est pleine de relations, il y a un échange, un partage, etc.
Et on apprend toujours aussi quelque chose, bien entendu. Hein. Donc, il faut évidemment s'engager, donc, pour rendre vivante sa foi, ça confirme un peu ce qu'on veut dire, s'ouvrir aux autres, c'est aussi être au service aussi des autres, et là aussi, on va être satisfait d'apporter une pierre à l'édifice, une lutte contre la pauvreté ou un travail d'unité et différents engagements.
Oui, oui, absolument.
Donc, il y a ça, et puis il y a encore un élément qui devrait couler de source. Il faut quand même savoir que les richesses spirituelles ont beaucoup plus d'importance que les richesses matérielles, qu'on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois.
C'est vrai que dans notre société du 21e siècle, qui est quand même assez matérialiste, assez dans la sécurité de ce que nous avons, de ce que nous sommes, de ce que nous sommes devenus, alors on peut dire j'ai un bon professeur, j'ai un bon médecin, j'ai un bon curé, j'ai un bon pasteur, j'ai un bon président, et puis quand ça va pas bien, je vais faire mes courses, je vais m'acheter un bon petit dessert, ça me requinquera, ou je vais voir un film, ou je vais passer un coup de fil, etc. Mais vous avez raison, hein, pour moi, d'insister sur ces réalités spirituelles qui sont la véritable source. Il y a un joli passage en Jérémie 2,13, je crois, qui fait la différence entre les citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, et puis l'eau vive que donne Dieu. Alors ça, c'est une expérience, on peut en parler de ça, mais on ne peut pas transmettre l'expérience. S'il y a des gens qui vont nous écouter, il faut qu'ils fassent l'expérience de recevoir cette eau vive eux-mêmes de la part de Dieu, et comprendre que le spirituel est à la base de tout, et que quand les choses vont spirituellement bien, alors c'est là où on trouve toute direction, toute motivation, tout ressourcement pour savoir se réjouir, pour pouvoir dire vraiment « j'ai appris à me réjouir ». Mais si on n'est pas dans ce face-à-face avec Dieu, si on n'est pas à l'écoute de sa parole, si on n'est pas dans cette détermination de mettre en commun, de parler ensemble de choses qui touchent à notre vie spirituelle, alors ben, c'est vrai que vous avez raison de dire que ça ne marche pas très bien.
Alors pour trouver la joie, on vient d'énumérer toute une série de consignes, mais en fait, il n'y en aurait qu'une seule, je pense. C'est tout simplement prendre comme modèle le Christ.
Oui, prendre comme modèle le Christ avec tout le modèle. On serait tenté de lire dans l'Évangile que les moments où il a été bien. Mais le Christ... Il a pleuré, il a été angoissé, il a été fatigué, il a été en colère, il a maudit les pharisiens, malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, etc. Et moi, j'aime bien cette parole, mais qui ne concerne pas Jésus-Christ, mais Paul, hein, dans 2 Corinthiens 6,10, qui dit « attristé, mais toujours joyeux ». C'est-à-dire que quand les circonstances sont contraires, sont difficiles, sont défavorables, sont plus exigeantes qu'à d'autres moments, alors on a un cap. Il y a une autre parole, un autre verset à propos du Christ, c'est Hébreux 12, verset 2 ou 3, je crois que c'est le verset 2, qui dit « Le Christ, à cause de la joie qui était devant lui, qui a enduré la croix et qui a méprisé la honte. » Voyez comme la joie... elle résulte de l'estimation des circonstances à cause de la joie qui était devant lui. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus, en allant vers la croix, il pensait à moi. Il pensait à nous. Il pensait à ce moment où Pierre et Guillaume se retrouveraient pour faire un enregistrement en se disant « Waouh, voilà des gens qui veulent s'impliquer » qui veulent écouter ma parole, qui veulent transmettre des bonnes choses, qui veulent prendre du recul, qui veulent être des éléments positifs, constructifs. Voilà quelque chose qui lui a donné de la joie. Toutes les grandes œuvres qui ont pu être faites avec, que sais-je moi, l'abbé Pierre, Mère Teresa, la Croix Bleue, la Croix Verte, la Croix Rouge, ou 36 choses. Ou même des œuvres simples où on peut... le secours populaire ou d'autres choses, ou dans la ville où on prend soin les uns des autres. Alors, le Christ avait tout ça devant lui, il le savait à l'avance, et ça lui a permis de finalement, quand il était triste, quand il était dans, face à ses chefs religieux qui essayaient de le faire chuter,
hargneux.
Quand il était avec ses frères qui ne croyaient pas en lui, quand il était avec ses disciples qui ne comprenaient rien à rien, quand il était, quand il s'est présenté devant le Sanhédrin, qu'il a été arrêté, et il est écrit dans l'évangile de Marc, tous le laissèrent et s'enfuirent. Alors je crois que du point de vue humain, ça a dû être affreux pour lui.
Certainement,
mais
oui.
Il avait quand même devant lui la joie. La joie, je pense à la fin du psaume 126, qu'il dit « Il va en pleurant, portant les gerbes qu'il répand. » Et en portant la semence qu'il répand, et il revient avec des chants de joie, portant les gerbes.
Oui.
Et donc le semeur, on imagine par exemple un paysan qui a fait une mauvaise récolte, et il a juste de quoi manger, mais il faut qu'il ressème, en fait, pour l'année d'après. Et donc, il pleure en semant, parce qu'en fait, il ne sait pas si sa récolte va être bonne, et lui, il mange moins, il se prive de quelque chose. Et je crois que le Christ, en fait, a semé, il s'est en quelque sorte privé de quelque chose, mais à la différence de nous, c'est que lui, il savait qu'il allait récolter. Et donc, nous, notre vie de foi, c'est ça, c'est d'avoir cette certitude que tout ce que nous faisons produira de la récolte. Et en cela, vous avez raison, l'exemple du Christ est un exemple qu'il faut suivre et qu'il faut écouter, il faut lire l'Évangile, il faut lire la Bible tous les jours et essayer de la faire vivre en nous.
Oui, alors en fait, je crois que les chrétiens devraient être tous joyeux.
Absolument.
C'est une presque, ça devrait être un commandement.
Et il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas joyeux. Je pense, par exemple,
de la promesse, hein, de toute façon, qui nous est faite, l'alliance. On ne devrait pas trouver chrétien
triste.
Triste.
Et non. Je pense, par exemple, dans le livre de Néhémie, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1er, ou deux, au début du chapitre 2, Néhémie était chanson du roi, c'est lui qui servait le vin, et le roi c'était Artaxerxès, et tout à coup Artaxerxès lui dit « Pourquoi es-tu triste ?» Il dit « Pourtant tu n'es pas malade. » Et il y avait des recommandations où chacun devait justement avoir cette exigence intérieure de considérer les choses comme étant bonnes, normales, justes, et que quand elles n'étaient pas justes, alors on les dise, mais qu'on soit simple. Voilà, je crois que les chrétiens ont un devoir de joie, d'une part, c'est-à-dire qu'ils devraient faire ce qu'il faut pour aller dans le sens de se réjouir. Paul dit aux Philippiens, comme donc vous nous y avez amené, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je vous le redirai, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Oui. Mais la tristesse est aussi un indicateur de ce qui ne va pas.
Oui, ça peut être un signe, bien sûr. Oui, bien sûr.
Et donc, autant on a à faire attention à se réjouir, autant on a à faire attention aux tristesses. Et par exemple, il y a un autre passage dans 2 Corinthiens 7, 10, où il est dit que la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui sauve, une repentance à salut. Il faut qu'on soit à l'écoute de nos tristesses. Pourquoi est-ce qu'on est triste ? Dans tel lieu, dans telle circonstance, avec telle personne, quand on parle de tel sujet, quand on a tel souvenir, qu'est-ce qui ne va pas? Et donc on devrait avoir cette exigence, ce souci intérieur, cette rigueur morale intérieure, d'être un peu à l'écoute et puis de savoir réagir par rapport à ça.
Alors, j'ai entendu dire, mais là je ne veux pas m'emporter garant, qu'il fut un temps dans l'Église catholique, la tristesse était considérée comme un péché. Donc, vous voyez quand même que ça a posé vraiment le problème de la joie dans l'Église, évidemment, déjà, des interrogations. Alors, je crois qu'on peut terminer tout simplement en disant bien, que notre joie demeure.
Amen. Thank you.